En antenne dans 15 secondes. Attention, 10 secondes.
On allume la 3, la 12 secondes.
Et 5, 4, 3, 2, 1.
Radio Kawa présente TVNR. L'actu média, toutes les deux semaines.
Bienvenue dans ce 97e numéro de TVNR, le podcast de Radio Kawa qui passe au crible l'actualité des médias toutes les deux semaines. Et en ce jour de vacances de printemps, on va dire, je suis avec Joachim, salut.
Salut Greg, salut à tous les éditeurs.
Aujourd'hui, on va parler d'audiovisuel public, de retour surprise et de fake news. C'est le programme de ce 97e numéro ou 97e pour nos amis belges ou suisses. Et c'est parti avec le suivi. Le suivi, c'est la rubrique qui ne lâche pas l'affaire. On revient sur de nouveaux développements d'actu déjà évoqués lors de précédents épisodes. Et on va revenir sur un épisode qui nous a tenu en haleine pendant de nombreuses semaines, c'est la nouvelle présidente de Radio France, puisque le CSA a enfin pris sa décision, les 6 candidats présentés dans le dernier numéro sont passés, et il a fallu moins de 24 heures pour que les sages rendent leur décision. Il s'agit donc de Sybille Veil, la directrice déléguée en charge des opérations et des finances de Radio France. Bref, c'est pas vraiment une grande surprise, on reste un peu dans la continuité
pas
de Mathieu
vraiment,
Gallet.
Oui, c'est... Tu vas en parler, mais son profil faisait que c'était tout de même la grande favorite pour obtenir le poste, au final, surtout avec les révolutions à mener.
Voilà, parce que c'est une ancienne de l'ENA, elle a été dans la même promo qu'un certain Emmanuel M, qu'on voit beaucoup à la télé ces derniers temps.
Oui.
Elle a notamment été conseillère technique auprès de Nicolas Sarkozy sur l'emploi, la santé, et elle est arrivée fin 2015 à Radio France, donc elle connaît bien les dossiers de Mathieu Gallet, et vu que c'est, entre guillemets, c'était une chargée des opérations, donc du coup, elle est très dans l'administration. Je pense que c'était ça que cherchait aussi, et dans les finances, je pense que c'était ça que cherchait plus ou moins le CSA. On annonce une future alliance avec Laurent Guimier, donc ancien journaliste qui était d'Europe 1, qui est passé à France Info. Il a surtout géré la fusion entre France Info Radio et France Info Télé. Et pour le moment, il est directeur délégué aux antennes et au contenu de Radio France. Donc on va dire que Sybille Veil va plutôt être dans la gestion et Laurent Guimier va plutôt être chargé des contenus, etc. La décision est d'autant plus logique que les rumeurs sont de plus en plus persistantes quant à un rapprochement de plus en plus effectif entre Radio France et France Télévisions, on va encore en parler tout à l'heure, puisque Sybille Veil proposait notamment dans son programme une synergie encore plus forte entre France Bleu et France 3, ça aussi c'est un dossier qui revient, j'ai l'impression, toute cette saison. Et une prochaine réforme sur les différents postes entre l'éditorial et la production, donc en gros elle veut gérer les coûts au maximum et essayer de voir s'il n'y a pas moyen de libérer quelques postes, parce que du dossier que j'ai lu, il y a quand même 240 postes différents apparemment au niveau production et éditorial chez Radio France, ce qui me semble en effet beaucoup.
Après c'est un chiffre, mais un chiffre en tant que tel ne peut pas forcément...
Clairement.
Voilà, ne veut pas forcément donner la réalité de l'emploi et de ce qui se passe derrière Radio France. C'est un peu facile à dire. C'est sûr que sur le papier, on peut se dire que c'est un chiffre énorme, mais faut quand même penser que c'est, Radio France est une multitude d'emplois et de stations.
Et voir aussi ce qu'ils disent quand ils disent différents postes, parce que entre guillemets assistant de production, producteur délégué, enfin bref, c'est des termes qui sont différents certes, mais finalement qui sont quasiment les mêmes, du moins pour certains médias. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner.
Voilà, on voit déjà que ils ont réussi donc à caser un homme, ou plutôt, dans ce cas précis, une femme de main, pour faire bientôt le boulot d'amener vers la fusion, et quelqu'un qui a un peu déjà les codes et les idées pour essayer de faire du ménage, comme tu le disais, dans les diverses branches de l'audiovisuel public, en tout cas sur la partie radio sur laquelle elle a la main.
Surtout que ça va annoncer, je pense, que des grosses négociations si en effet elle met tout de suite ses réformes à jour, parce que quand on voit la grève qu'il y a eu il y a 3 ans maintenant, lorsque c'était au niveau de France Inter, etc., je pense que ça va encore gueuler au niveau des syndicats chez Radio France si on annonce des suppressions de postes.
Alors que l'augmentation du cash flow présentée par la fameuse team par Jupiter, Von Necker et compagnie aurait été tellement plus appréciée par les syndicats.
Je pense que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas passé l'audition finalement, que le CSA n'ait pas accepté leur dossier. C'est
toujours le problème. C'est ça, l'humour, c'est deux choses qui vont grandement ensemble.
Oui, non, ça, je pense pas que ça va bien fonctionner. D'ailleurs, Charlie Vonnenacker avait fait une grosse référence là-dessus sur Twitter, puisqu'elle avait, repris un tweet du CSA qui annonçait les auditions des candidats au poste de président. Et elle avait notamment cité ce certain Alain de Greff dans Les Guignols en disant « Niquer un mouton ». Je pense que là,
oui.
Voilà, tout est dit.
Ah, c'était cul un mouton.
Cul un mouton, excusez-moi. On va dire que c'est la vieillesse. On va passer tout de suite à un autre gros dossier qui a aussi duré même plus qu'une saison. Ça fait 3 ans que ça dure. Vincent Bolloré et Canal+, notre ami Vinvin le colérique. Vincent Bolloré va quitter le conseil de surveillance de Canal+. Incroyable, oui, le champagne est sorti.
Non, rangez le champagne.
On y était presque. Non, malheureusement, Vincent Bolloré, certes, quitte bien le conseil de surveillance de Canal+, mais c'est pour mieux mettre ses hommes de main, justement, à ses postes clés, puisque Jean-Christophe Thierry devient lui-même président du conseil de surveillance de Canal+, alors que Maxime Sada devient président du directoire de Canal+, à la place de Jean-Christophe Thierry, donc en gros, c'est une partie d'échec qui continue au sommet de la tour Canal. Bref, on va pas s'attendre à de gros changements, même si Vincent Bolloré s'en va. Il avait déjà annoncé en 2015 qu'il s'en irait, entre guillemets, très vite. Bon, il a quand même fallu attendre 3 ans, 1 million d'abonnés perdus et une grille totalement brisée pour qu'il s'en aille.
Et probablement des pressions du MEDEF aussi, parce que en gros, ça faisait double casquette avec son rôle exécutif de Vivendi, et que c'était pas exactement dans les meilleures pratiques de « bon, écoutez, ça fait un peu bizarre vous que soyez au conseil de surveillance, et puis après que vous ayez les décisions, donc bon, si vous pourriez partir, s'il vous plaît », au final, il s'est aperçu qu'il pouvait le faire.
Oui, parce que c'est ça, entre guillemets, il surveillait ses propres décisions, ce qui était un peu bizarre. Bref, le bilan de Bolloré au niveau du monde de l'audiovisuel, je pense qu'on peut dire qu'il est un peu foireux, puisque son Netflix européen avec Telecom Italia, c'est au point mort vu que les négociations n'ont pas été menées à bien. Dailymotion, donc, se casse toujours la figure. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça existe encore à part pour des rediffusions de Canal.
Ça existe pour te donner des erreurs 400 quand tu essayes de charger une vidéo et que tu fais « Oh non, une erreur est survenue ». Voilà, essayer de charger une vidéo Dailymotion, déjà, c'est toute une épreuve. Hein.
J'ai ça d'ailleurs au sein de ma rédaction. J'ai aucune vidéo Dailymotion qui ne fonctionne, que ce soit sur Firefox, sur Chrome, sur Vivaldi,
ça marche pas 9 fois sur 10.
C'est incroyable. Et donc, un autre projet qui a foiré, c'est Ubisoft, puisque Vivendi annonçait il y a peu la revente de ses parts dans Ubisoft.
Foiré, ils ont quand même fait 1 milliard de plus-value, c'est une belle affaire.
Oui, dans le sens foiré où on annonçait une probable mainmise de Vivendi sur Ubisoft. Finalement, bon, ils se sont retirés, ils ont fait un très gros bénéfice. Mais voilà, disons que l'espoir de Bolloré de contrôler entre guillemets un univers médiatique assez imposant est quand même en train de se briser en plusieurs morceaux.
Pour l'instant, on n'y est pas exactement, en effet. Après, il reste toujours ses filiales étrangères, ses filiales, on n'arrête pas d'en parler, ses filiales africaines qui fonctionnent bien, donc peut-être redévelopper là-dedans. Puis il a encore quelques petits procès à faire contre les rédactions de Cache Investigation et tous les gentils méchants qui leur disent « Ah là là, c'est pas bien, regardez, mais en exploitation d'huile de palme, bouh !»
Oui, non, ça, je pense qu'on va encore en entendre parler dans d'autres reportages. Hein. Je pense que ça va pas rester, même s'il y a des procès qui s'annoncent encore. Je pense que les journalistes vont justement continuer à gratter derrière l'empire Bolloré. De ton côté, c'est tout, tu souhaitais encore donner un petit mot pour No Life qui a...
On en avait parlé assez rapidement parce que la news n'était pas exactement complètement tombée de façon officielle au moment de notre précédent enregistrement, mais cette fois-ci c'est réellement officiel. No Life donc va cesser d'émettre si quelques jours. Maintenant, c'est un peu étrange, ils sont dans un mode un peu zombie où ils font, on sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter parce que bon, ça dépendra des huissiers, tout ça, donc on essaie de vous filer encore un peu 2-3 trucs qui nous restaient sous la main et on fait des rediffs pour que vous puissiez enregistrer des émissions. Donc c'est assez marrant, ils prennent vraiment la rigolade, ce qui est pas mal pour une chaîne qui est en train de fermer.
Ouais, ce qui est étrange, une semaine après avoir justement mis en trompe tout le monde dans l'émotion, dans
voilà,
la tristesse.
C'est curieux.
Bon.
Mais bon, pourquoi pas, ça a toujours été un peu la ligne édito de NoLF, qui donc, après 11-16 ans de « on va mourir la saison prochaine » et non, en fait, non, a fini par devoir rendre les clés de ses locaux, puisque ça n'était plus tenable. Et Sébastien Rocher l'a expliqué à de nombreuses reprises ces derniers jours sur Internet, sur le forum de NoLife et sur d'autres médias tels que Reddit, où vous avez un « Ask me anything » où il répond à des questions de nombreux internautes à ce sujet. Vous expliquez que forcément, avec l'évolution des médias, la TNT, les budgets publicitaires qui devenaient de plus en plus faibles, ce qui a été un grand coup, hein. Bon, personne ne le savait pas forcément, mais en 2014, NoLife a fait un contrat important de publicité avec L'Oréal et ces derniers se sont rétractés, ce qui a fait vraiment un grand coup aux finances de la chaîne, et plus progressivement les annonceurs qui se sont retirés les uns après les autres, parce qu'annoncer sur une chaîne thématique, certes, même avec une audience qualifiée et premium, c'est pas forcément la priorité d'une deux grandes boîtes, ce qui a fait que les budgets publicitaires ont fini par baisser, et que ça ne pouvait pas être compensé forcément par les abonnements aux services de VOD Noco. Et donc, malgré aussi les nombreuses tentatives de recoupe, de division des services, d'économie, bout de chandelle parfois, ou même de grosses économies en licenciant toute la partie JV, ça n'aura pas permis à la chaîne de revenir sur flot. Et donc, ils ont annoncé la procédure de liquidation judiciaire qui devrait s'enclencher d'ici les prochains jours, avec la fin du signal de la chaîne. Beaucoup de personnes se sont un peu manifestées en ligne pour montrer leur tristesse et montrer à quel point c'est une chaîne qui les affectait. La disparition de la chaîne leur a permis, la chaîne en elle-même leur a permis de se lancer. Forcément, on pense à Poulpe, on pense à Davy, on pense à Médoc et Moguri qui ont lancé leur podcast du Cozy Corner, on pense à plein de personnes qui ont été influencées par cette génération-là, aux gens noobs qui ont obtenu le succès monstre qu'ils n'auraient jamais obtenu si jamais ils n'avaient pas commencé à être diffusés par là, etc, etc. Ça fait un peu étrange de voir toutes ces personnes qui sont un peu tristées et qui disent « Merde, c'est triste que cette chaîne disparaisse », alors que bon, finalement, NoLife tenait bon an, mal an, comme il pouvait. Mais Sébastien Rocher le dit lui-même encore, il est de toute façon presque un peu fataliste, il pouvait pas trop y faire grand-chose parce que la télévision, forcément, s'est fait bouffer par Internet, ils sont une des premières victimes, ils seront pas les derniers à ce sujet-là. Et que ça devenait compliqué. On espère un peu, bien évidemment, tout le meilleur pour eux, parce que, surtout pour lui, il va devoir vite trop y travailler, puisqu'en tant que patron d'entreprise, le chômage, ça n'existe pas, ce qui est assez ennuyeux. Mais je pense qu'encore les derniers talents qui restaient à NoLife vont pouvoir retrouver très très vite, et je l'espère, des occupations qui vont leur permettre de continuer leur passion et de montrer leur talent dans d'autres médias.
Je crois que c'est ce qui montre aussi qu'il n'y a rien à faire. La télé reste quand même un des plus gros vecteurs de transmission culturelle.
Oui.
Il y a Internet, etc. C'est cool, tu peux tout trouver sur YouTube. Mais NoLife, quand même, en 11 ans, a quand même réussi à développer, une culture autour de sa chaîne. C'est assez impressionnant.
Donc, on voit tous les témoignages de personnes qui se sont manifestées pour pleurer la disparition de la chaîne. On a même parlé dans les grands médias. Il y a eu des interviews dans les Arocs. Il y a eu 2 minutes dans Quotidien pour parler de la mort de NoLife. Jamais NoLife n'a eu autant de communication. C'est peut-être ça la question qu'on pourrait se poser en étant méchant. Est-ce que il y a peut-être pas eu un déficit justement de communication pour permettre à plus de personnes de découvrir la chaîne? Et bon, je pense qu'il y a quand même des tentatives. Il y avait eu une tentative de communication avec les pubs dans le métro à une époque, tout ça, mais d'un seul coup, NoLife n'a jamais eu d'autant d'exposition et d'autant d'audience que sur ces derniers jours où ils doivent fermer la porte.
Ouais.
C'est peut-être un peu dommage, mais bon.
Oui, non, malheureusement.
C'est très facile à dire, forcément.
Par après,
évidemment. Évidemment. Si les personnes m'écoutent, évidemment, ce n'est aucunement dans une tentative de vouloir être méchant ou autre chose.
Non, on espère surtout que les personnes qui ont tenu encore NoLife à bout de bras ces dernières semaines pourront retrouver assez vite du boulot.
Je n'en doute pas, personnellement.
On va passer tout de suite à l'actualité de ce 97e numéro de TVNR après une petite publicité.
Toutes les 2 semaines avec Yann
et avec Lou,
on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers.
On reçoit également des invités et on répond à vos questions.
La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo.
C'est votre actualité du jeu vidéo.
Un vendredi sur deux
sur Radio Kawa.
C'est La Cartouche sur Radio Kawa.
On est parti pour l'actualité de ce 97e numéro de TVNR et on va encore parler d'audiovisuel public. C'est quand même le gros dossier pour
le
moment.
C'est un gros sujet, oui.
Mais voilà, avec les réformes qui s'annoncent de la part du gouvernement. Et ces fameuses réformes risquent d'être un peu plus imposantes que prévues. C'est Les Échos qui nous rapportent que il pourrait y avoir jusqu'à 500 millions d'euros d'économies d'ici 2022 dans tout le groupe audiovisuel, que ce soit France Télévisions, Radio France, France Média Monde. Voilà, le dossier révèle que penche jusqu'à 200 millions d'euros d'économies rien que pour France Télévisions. Donc,
un joli billet.
C'est quand même assez énorme. 500 millions d'euros sur tout le groupe audiovisuel, c'est quand même un huitième du budget total actuel. Et c'est presque le budget global de Radio France. Parce que Radio France, c'est 609 millions d'euros en 2018. Donc ça prouve quand même le gros travail qui s'annonce. Bon, niveau confirmation de ces chiffres, on n'en aura pas avant plusieurs mois. Françoise Nyssen, elle a dit qu'elle allait en parler publiquement après le Festival de Cannes. Je pense que ça va faire mal, justement, juste avant l'été, juste avant,
oui,
la prochaine saison.
C'est vraiment au moment histoire de noyer le poisson. Hein. C'est pas très malin.
Non, je pense que ça va grincer des dents. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, je pense que ça confirme les synergies qui risquent de s'annoncer. D'abord, entre France 3 et France Bleu, on annonce cela peut-être pas pour la prochaine saison, mais peut-être pour
presque,
deux ans.
Oui. Mm-hmm. C'est un projet qui veulent avancer assez rapidement pour faire des économies. Donc, à mon avis, si c'est pas en début de prochaine saison, ce sera très très vite, même en milieu de saison, parce qu'ils veulent vraiment avancer, limite à marche forcée sur le sujet. On le voit bien, il y a une tentative de vouloir faire le groupement des économies, même tu vas le dire tout de suite, parfois des décisions, pour en imposant des décisions qui sont un peu stupides. Je crains que ce soit aussi sur le même rythme pour la fusion France 3-France Bleu.
Ben oui, et finalement, on revient à ces idées chaque fois de fusion, de répartition des coûts. On a aussi, dans Les Échos, on parle peut-être de l'idée de revenir à ces rédactions fusionnées, c'est une idée qui avait déjà connu pas mal de réticences, c'est même peu de le dire, au niveau de France 2 et France 3. Ils ont réussi à tenir jusqu'ici, mais je pense qu'on va finir par y arriver, surtout avec la fusion qu'il y a eu entre France Info Radio, France Info Télé, France Info Web. Je pense qu'à un moment, toutes les rédactions vont finir par se réunir en une seule à un certain moment.
Bah, c'est encore quelque chose dont on parle également dans TVNR, le problème de l'audiovisuel public français, qui est presque unique par rapport à tous ses confrères un peu partout dans le monde, où les regroupements des rédactions se sont déjà faits depuis quelques temps, avec forcément des couleurs et des distinctions quand même pour les parties radio, web, télé, etc., mais sur lesquelles sont généralement une et une seule et unique rédaction qui se regroupe pour faire les diverses publications de médias et de contenus pour les divers éléments du groupe. C'est vraiment une situation qui devient de plus en plus rare dans le monde.
Surtout que, par exemple, la rédaction sportive est, par exemple, regroupée, déjà.
Oui.
Donc, voilà, donc on peut se dire...
Regroupée, on sent déjà qu'ils continuent à vouloir couper des têtes. La dernière nouvelle qui a été annoncée par l'équipe récemment, c'est que, apparemment, ça se bousculait pour prendre le strapontin de tout le sport, même entre diverses personnalités de la rédaction des sports, même le célébrissime et intervieweur sportif dont le nom m'échappe. Et oui, Patrick Nesson de Montfort voulait absolument avoir ce strapontin-là, ce qui est quand même surprenant et sur lequel il n'a aucune légitimité, mais on sent que c'est vraiment le dernier placard doré qui reste à la direction des sports avant le grand chamboulement qui devrait arriver dans les prochains mois, si ce n'est semaines.
Là aussi, on annonce en effet encore des économies dans les sports, de savoir qu'est-ce qu'ils vont finalement laisser tomber. Parce que bon, il y a certains sports qui restent, qui entre guillemets, on n'imagine pas quitter France Télévisions.
Oui, on le disait il y a peu, hein, quand dans TVNR, ça devient compliqué de vouloir couper des droits sportifs sur France Télévisions, à part de vouloir couper les JO.
Par vouloir couper les JO, oui, Coupe de la Ligue, Coupe de France,
de
à la
Ligue,
limite.
C'est pas
bon.
Beaucoup, c'est 9 millions la Coupe de la Ligue, c'est pas.
Oui, c'est ça, c'est pas là-dessus qu'on va faire de grosses économies.
Non plus.
Donc il y a aussi cette idée de Netflix à la française qui aurait été abandonnée. France Télévisions lui réfute. Mais si on, si on en envisage en effet cette idée, ça risque en effet de coûter plus d'argent que...
C'est, à mon avis, c'est vraiment une décision, je me permets le point de vue éditorial sur le sujet, mais pour moi, c'est vraiment une décision qui est totalement téléguidée, pas de France Télévisions, mais plus de l'exécutif, qui veut pas que France Télévisions se lance dans Netflix. Ça se lance déjà de plus en plus sur pas mal de contenus radio-télévisuels, ou surtout, bah, l'exemple, c'est de, au Canada, avec la société Radio-Canada et la CBC qui ont lancé d'un côté Tout.TV, enfin, plutôt, c'est plus au Québec francophone, donc avec Radio-Canada qui a lancé Tout.TV depuis quelques années, parce que eux se combattent grandement contre Netflix en essayant de faire de la taxation et de préserver un peu l'indépendance culturelle francophone au pays. Et donc ces derniers ont vraiment lancé leur propre plateforme de VOD, qui était d'abord juste la rediffusion, comme vous pouvez l'avoir sur plus de tous les programmes chaînes, mais qui est devenue de plus en plus une plateforme de production continue avec un abonnement annuel comme un Netflix, avec des séries inédites, et ils sont en train de réfléchir à s'allier avec les chaînes privées pour faire un système vraiment unifié sur toutes les productions de contenu, un mode un peu alliance, vraiment pour tous se battre contre Netflix et avoir une plateforme de contenu comme francophone québécois qui soit disponible pour tout le monde et tous les téléspectateurs. Ça, c'est une bonne idée. Et à mon avis, c'est sur ce genre de choses que France Télévisions devrait peut-être pousser. Sauf que bah, si on lui dit d'un peu plus haut de ne rien faire, bah, forcément, c'est bien plus compliqué.
Surtout que ça fait plusieurs mois qu'on en parle de ce Netflix France Télévisions.
Depuis l'arrivée à la direction
Delphine Ernotte.
Delphine Ernotte.
Oui, donc si cette idée finalement est abandonnée, tous ces mois de travail mis à la poubelle, c'est un peu
très coûteux.
Dommageable. Ouais, donc clairement. Ouais,
bah, c'était déjà la première étape, c'était justement la refonte de l'identité, cette plateforme France TV pour les replays, qui devait être un peu un fer de lance pour ensuite continuer sur la plateforme de contenu.
En tout cas, ça montre toute une nouvelle tendance qui est presque européenne. On en avait parlé à l'époque de Nobilag, de cet audiovisuel public qui est un peu en train de
maigrir.
De maigrir, voilà. Donc en Grande-Bretagne, la BBC a déjà dû économiser 800 millions de livres en 8 ans. C'est depuis 2011 que ça se déroule et il y a eu énormément de purges, notamment au niveau de l'information. On a parlé donc d'une rédaction qui était collective à ce niveau-là, mais malheureusement ils ont également supprimé des centaines de postes à ce niveau-là. Et en Belgique, il y a le même débat qui se fait pour le moment au niveau de la RTBF, parce que la télé-redevance au niveau francophone va disparaître. Normalement à partir de septembre, si je me souviens bien.
Il y a une raison particulière, juste une volonté du gouvernement.
C'est une volonté du gouvernement wallon qui voulait, c'est une sorte de martingale qui revenait depuis des années. C'est la télé-redevance coûte trop cher, alors que c'était de l'ordre de 100 et d'euros par an. Et donc du coup, ben, ils ont simplement supprimé cela. Maintenant. Évidemment, ça veut dire qu'il faut trouver l'argent quelque part d'autre.
Ouais,
et pour le moment, il y a déjà la publicité. Je ne vois pas trop ce qu'on peut trouver d'autre pour financer la RTBF. Et au niveau flamand, la VRT, elle, doit déjà réaliser 25 millions d'économies par an sur 6 ans depuis 2015. Donc voilà, on voit alors que la VRT, elle, n'a pas du tout accès à la publicité, par exemple, contrairement à RTBF.
C'est surtout que, sans vouloir être insultant, mais la RTBF n'est pas une chaîne qui roule sur l'or et qui le monte dans ses programmes. Hein. Je ne pense pas me dire le contraire
clairement.
En disant ça.
En fait, ce que la RTBF essaye de faire pour le moment, c'est un peu la même stratégie qu'avec France 2, peut-être un peu plus poussée encore, c'est de montrer qu'elle peut créer des contenus originaux, donc avec en mettant beaucoup l'accent sur les nouvelles séries, les nouvelles productions audiovisuelles, téléfilms, etc.
Ouais, pour rendre à l'international et faire du revenu avec, par exemple.
Voilà, c'est ce qu'ils essayent de faire pour le moment, et ça fonctionne parce qu'il y a des séries qui sont vendues notamment à Netflix ou Amazon Prime, mais maintenant, bon, voilà, je sais pas si c'est forcément cela qui va permettre de, de sauver la RTBF par rapport aux économies qu'elle devra
aussi,
faire.
J'étais tombé une fois sur la matinale aussi, j'ai vu que c'est fait en fusionné, mais pas en simultané, pardon, avec la radio.
Oui.
Donc déjà, c'est une source d'économie.
Oui, il y a énormément de fusion comme ça entre radio et télévision, où il y a toute l'émission, on a fait de 8, même de 6 heures du mat jusqu'à 11 heures, où c'est de la radio filmée. Et,
un peu tristoun, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus sur de nombreux groupes publics, et ce serait pas étonnant que France Télévisions commence aussi à taper là-dedans, aux grandes dames de France Info, malheureusement, mais vu qu'on fuit de plus en plus France Info, peut-être à un moment, ils vont peut-être penser que Télématin, ça coûte cher, pour ce que c'est, même si ça fait des bonnes audiences, et qu'il va falloir passer à autre chose qui coûte pas cher, donc de diffuser la radio filmée.
Bah oui, ça fera plaisir à tout ça. Mais sinon, oui,
moi c'est absolument pas ce que je veux, clairement, hein. Ce serait très triste, mais je crains que des choses comme ça, ou peut-être pas forcément sur France 2, mais sur France 3 en télédiffusant France Bleu pour les régions.
Ah oui, pour les régions, en effet c'est une idée. Et puis entre guillemets, il doit voir aussi que ça fonctionne avec RMC numéro 23 et
les grandes
BFM.
Gueules fonctionnent de plus en plus pour aller gens se triper dessus à midi. Bourdin fait parfois d'excellentes audiences avec des interviews sur RMC Découverte, donc qu'ils aient tort de penser le contraire, de se dire que c'était une option pour faire des économies.
Ouais, c'est ça, on arrive à des services publics qui vont peut-être être moins ambitieux à ce niveau-là, mais qui tentent de chercher des solutions dans les synergies. Il n'y a rien à faire, c'est ça qui compte pour le moment. On va rester dans le service public, cette fois avec une autre émission d'information qui va s'arrêter à la rentrée. C'est 19h le dimanche, la fameuse émission de Lolo Delahousse. Il n'aura plus droit à son tunnel de 2h du dimanche selon Téléstar et OZAP.
Non, c'est triste.
Ah oui, je comprends ta tristesse, parce que les gens, visiblement, n'étaient pas devant de toute façon. Le programme n'a jamais réussi à dépasser les 10% de parts de marché. Et
c'était
bien
clairement
loin.
Mauvais.
Et c'était bien loin de 7 à 8.
Bien loin de 7 à 8 et bien loin des belles audiences de Drucker à ce moment-là non plus.
Oui, c'est ça aussi. C'est que finalement, Michel Drucker, avec son vivement dimanche prochain depuis 15 ans, était quand même très très bien installé. Les gens avaient leurs petites habitudes et finalement, 19h le dimanche, n'arrivent pas forcément à les conserver à leur côté.
C'est vraiment le Delahousse show en même temps aussi, hein. C'est ce qu'il voulait faire depuis longtemps, son blanc d'infos avec regardez, je suis Laurent Delahousse, regardez, je suis autour d'une grande table, regardez, j'ai un invité, regardez mon brushing. Bon,
regardez notre grand studio qu'on doit absolument rentabiliser depuis les élections.
Bah, ça va, il rentabilise déjà bien avec, oui. Avec Télématin, donc je pense
non,
que c'est plutôt intelligent sur l'idée, hein.
Donc malgré tout, Lolo devrait quand même conserver son 20h30 le dimanche et en plus avoir droit en compensation à 20h30 le samedi. Donc plus ou moins le même concept. J'imagine qu'il invitera encore des invités culturels.
Encore un Jamel, encore un Charles Aznavour qui fait sa dernière tournée d'adieu. Et... Voilà, pas du tout des concepts déjà refaits.
Non, on pourrait mettre Michel Drucker à la place, que ça fonctionnerait pareil, je pense.
Surtout, je pense que c'est beaucoup plus dangereux de le mettre le samedi que le dimanche. Parce que pourtant, le dimanche, ça fait beaucoup sens d'avoir un bloc d'infos comme ça, là, un peu plus magazine en fin de semaine. Mm-hmm. Autant le samedi, tu prends le risque de te prendre un truc qui a bouffé 10-15 minutes de ton bloc entre le journal et ton prime, qui risque éventuellement de faire fuir du monde qui n'est pas forcément le genre de personne qui voulait aller voir ce qui se passe après, ou le contrairement, qui voulait regarder le Prime, mais qui a pas envie de se payer 15 minutes de Delahousse et donc d'aller fuir à la concurrence. Ça me semble être assez dangereux comme pari pour France Télévisions, même si c'est bien évidemment une façon de compenser cet arrêt de cette émission qui avait été offerte sur un plateau à Lolo depuis de nombreuses années après qu'il attendait.
Mmh. Donc du coup, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va mettre à la place de Lolo le dimanche à 19h.
Ah les choix sont nombreux, clairement.
Est-ce qu'on relance Stade 2 plus tard, ou alors est-ce qu'on le laisse toujours à son 16h30 un peu tristoun? Est-ce qu'on balance Laurent Ruquier et ses enfants de la télé en access? Parce que franchement, je pense que c'est clairement une option possible. Connaissant France 2.
C'est l'option qui tient la corde, apparemment. Ce serait de monter les enfants de la télé à 19h, vu que les audiences sont très bonnes l'après-midi, et donc de faire une promotion à Ruquier. Ouais.
En soi, ça, logique, enfin, le dimanche après-midi, il n'y avait déjà plus grand-chose sur France Télé, à part le sport sur France 3, donc du coup, ça me semble logique que Ruquier fonctionne bien. Ou alors, est-ce qu'on rappelle Michel Drucker?
Alors, c'est une option. C'est un peu plus compliqué. France Télévisions a dit à... tendu littéralement la main à Michel Drucker en disant qu'il souhaitait continuer avec lui, en lui proposant des primes et en lui proposant de continuer vivement dimanche prochain. L'idée, c'est que ce serait vivement dimanche prochain serait encore avancé dans la grille pour la saison prochaine, donc à peu près vers 15h. Enfin, ce serait 15-16h, hein, ouais. On sait pas, c'est pas clair pour l'instant. Hein. Donc vraiment, limite en mode vivement dimanche au final.
Oui, mais c'est ça. On revient
à la après,
centrale.
Donc, continuer, lui proposer quelques primes avec le grand show, avec les amis du Chevalier du Fiel, avec encore un prime sur Gérard annuel, hein, évidemment. Je vous rappelle que si France Télévisions ne fait pas de prime sur Laurent Gérard, ils doivent payer une amende au CSA, c'est extrêmement important.
Non, clairement.
Mais ce dernier commence à en avoir un peu marre de la télévision, et surtout que il fait les tournées de France, plutôt des salles polyvalentes pour faire son one-man show. Le dernier se dit qu'au final, la télé, j'en ai plus grand chose à foutre et que limite, si je pourrais arrêter, bah, ce serait pas plus mal. Donc, ça emmerde un peu France 2 au final, cette affaire. Eux qui ont fait un peu le pouvoir de virer pas mal leur tête vieillissante à raison pour un grand nombre d'entre elles, bah, d'un seul coup, ils se retrouvent assez emmerdés sur le fait que cette fois-ci, ce soit vraiment leur gros mastodonte qui dise lui-même, non, je veux arrêter.
Oui, c'est vrai que je vois pas trop qui d'autre sinon pourrait reprendre une telle émission.
Thomas Tour, non.
C'est une possibilité,
non, finalement. Surtout que apparemment Thomas Touroud, bon, c'est compliqué, hein, vous en avez déjà parlé, hein. Il s'est donc fait virer Manu Militari, ou plutôt avec raison de la direction des sports de France Télévisions, après avoir ouvertement dit qu'il appréciait pas le ton actuel de tout le sport. Bon, bah ça, hein, c'est sa faute.
Voilà.
Et donc, celui-ci pourrait voir son émission d'Europe 1 Il y a plus péno après, encore décalé à un horaire plus lointain, soit en hebdo, soit carrément sur le web, parce qu'il faudrait refaire de la place sur la grille d'Europe 1 pour, surprise, faire une émission de bande la saison prochaine entre 16h et 18h. Si ça vous rappelle quelque chose...
C'est... Ou la mauvaise idée.
Voilà, une très mauvaise idée. Hein. Je pense qu'on avait dit qu'on arrêtait de dire du mal d'Europe 1, sauf que le problème, c'est qu'Europe 1 n'arrête pas de faire des conneries, donc au bout d'un moment, c'est compliqué.
Que devient Alessandra Sublet, d'ailleurs? Ah, voilà, la question est posée.
C'est-à-dire, alors, est-ce que voilà, tu souhaites vraiment le savoir?
Je pense que cette case est maudite, il ne faut pas, absolument pas y aller, que ce soit Touroud ou Sublet.
Sublet ou alors Hanouna, parce que c'était les pieds dans le plat à la première
saison.
Oui, c'est vrai que
le départ j'avais déjà totalement oublié que Cyril Hanouna... avait tenté cette case.
Bah, c'est celui qui a fait mieux. Hein. Après, ça a dégringolé de saison en saison. Hein. Il avait à peu près tenu le truc, plus ou moins. C'était pas ouf par rapport aux audiences de Ruquier. Il tenait encore un peu la maison. Là, bah, ceux qui sont passés après, bah oui, c'est non. Non.
Bon, sinon, on remet à Christophe Ondelat sur 2 heures pour tenter de déprimer le téléspectateur.
Je pense qu'Ondelat va avoir, à ce niveau-là, il y aura une carte de fidélité au déménageur breton. Hein, parce qu'à force de déménager dans la grille, ça commence à devenir assez compliqué pour lui-même non plus.
Non, clairement. Donc,
mais ouais, pour l'accès de fin de semaine, où on peut avoir un jeu sur France 2, vu que ces derniers ont annoncé plus ou moins officiellement que les 5 anneaux d'or c'était terminé, parce que c'était pas formidable non plus.
Ah non, c'était lent et nul, franchement.
Bah, le concept est intéressant, c'est juste qu'il est extrêmement mal exécuté, on va dire ça. Et donc, pour remplacer les 5 anneaux d'or, ce sera Joker, qui va ressortir de nulle part.
Oh, le retour.
Bah, c'est-à-dire que Joker coûte à peu près 50€ à produire, hein, par émission, soyons honnêtes. Hein.
Non, clairement.
Puis tu prends 2 gars devant 2 écrans, et après tu fais un jeu SMS et hop, coûte 0.
Non, clairement, mais le problème c'est que j'ai toujours eu du mal avec les jeux du dimanche soir, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu cette impression, mais peut-être parce que les grilles ont été comme ça ces dernières années, que le dimanche soir en access, il y a moins de place pour les jeux.
Non. Non, il y en a beaucoup moins, et généralement, c'est pas du truc qui fonctionnait. C'est 8 l'a essayé pendant pas mal de temps, avec Big Buzz Quiz, avec des rediffs, soit du maillon faible, ou alors de Guess My Age. C'était pas forcément les meilleures audiences, donc après, c'était la TNT, donc ils avaient un peu plus la légitimité à ce sujet. Mais ouais, sur France 2, ça fait un... Il y avait mot de passe pendant un moment. Il y avait mot de passe à 19h.
Oui, mot de passe avec... Patrick Sabatier.
Oh, on va gagner plein de pognon. Et oui, à la limite, ce serait une option, hein. Je pense que ça va tirer. Tu lui dis, ça dit de bouffer un peu. Là, on remet le mot de passe. Il revient tout de suite. Hein.
Parce que Sabatier est pour le moment avec C8, non?
Oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Oui. C'est vrai que Sabatier va venir à C8 pour faire avis de recherche
sur
Hanouna.
Oui.
Et après, a priori, d'autres numéros d'avis de recherche, sauf que comme le premier fera 500 000, donc il n'y en aura pas d'autres, hein, soyons honnêtes.
Je pense aussi. On va rester justement sur C8 et sur les jeux télévisés, puisqu'on annonce un grand retour. Je suis sûr que vous l'attendiez avec impatience, puisque c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes, tatata. Vous connaissez cette expression. Vincent Lagaffe revient sur C8. Eh oui, merci Cyril Hanouna qui a ramené Vincent Lagaffe. On lui a dit, garde ton jet ski et viens signer ton contrat sur le plateau de TPMP. On va te faire un nouveau jeu top classe. Ça va être génial.
Alors, c'est lourd.
Ce nouveau jeu, déjà, il me fait rêver. J'ai l'impression de jouer à la Wii. Donc c'est Strike, un jeu de bowling.
Tu vas dire qu'on va voir, bientôt Vincent Lagaffe à la Gamers Assembly pour jouer au Wii Bowling
avec nos amis du 3e âge de Poitiers.
Non, mais si vous n'avez pas vu les vidéos, c'est absolument adorable. Allez voir les vidéos du tournoi de personnes âgées qui jouent à Wii Bowling. C'était vraiment magnifique.
C'est sur Le Monde aussi, hein,
qui a eu
un article aussi.
Vraiment, vraiment super mignon.
Non, c'est top. Donc, peut-être qu'on les retrouvera à nouveau dans Strike, donc le nouveau jeu de C8, un jeu de bowling opposant deux équipes composées de deux célébrités avec un anonyme, et les équipes doivent simplement faire tomber le plus de quilles possible et répondre à des questions de culture générale pour faire grimper les gains jusqu'à 50 000 euros. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller.
Rappelons les derniers concepts de quiz foireux un peu sur C8, entre un peu hold-up, hein. Bonjour, big up à Benjamin Castaldi. Hein.
Ah, c'est vrai qu'il y avait eu ça.
Ça a fait le numéro. C'est pas revenu. Et c'est un peu normal parce que c'était pas ouf. Le fameux couple ou pas couple qui était absolument dégueulasse as fuck pendant 20 numéros en access et qui ne reviendra pas, j'espère, hein, parce que c'était vraiment bourré de clichés, surprise. Il y avait donc eu aussi Big Buzz Quiz, on en a parlé le dimanche, après tous les jeux de l'access, Apprendre ou laisser qui s'est très vite affaibli, le maillon faible qui s'est très vite affaibli, les jeux sur C8, c'est pas forcément le meilleur plan, hein.
Il y a que Guess My Age finalement qui tient un peu la corde
Et encore, ça commence à faiblir un peu, mais ils ont réussi à revendre le concept un peu partout à l'international, je pense que c'est un succès pour Vivendi au final. Donc ils sont contents. Et le jeu n'est pas mauvais au final. C'est clairement un jeu sur lequel tu peux être devant ta télé, un peu amusé, et t'as toujours du renouvellement parce que forcément des personnes, faut que t'as épuisé le stock. Bon, c'est un peu compliqué. Les jeux de C8, ça a vraiment pas été un gros, gros succès.
D'ailleurs, tous ces jeux-là, on les avait retrouvés en Belgique. C'était diffusé sur AB3 qui avait racheté tous les numéros.
Ça n'a pas du coup été bien cher.
Mais non, clairement, c'est diffusé genre à 17h. Donc vraiment à
16h. Ça doit être limite plus rentable, moins cher que de mettre une émission de télé-tirelire.
Oui. Tu comprends, hein, les voyages jusqu'en Roumanie et tout pour aller acheter les émissions de Cool TV, ça coûte cher.
Oui.
Donc pour revenir à Vincent Lagaffe et son nouveau jeu, on l'avait quand même revu, il avait fait quelques émissions sur AB Moteur, dans une émission avec Margot Lafitte qui faisait un peu Top Gear.
C'est une émission assez historique, c'était un peu le turbo d'AB Moteur qui durait depuis 10-15 ans. Surtout que Lagaffe avait été réellement approché par RMC à l'époque pour être dans le cast de Top Gear France, et qu'il n'avait pas pu accepter parce qu'il était encore en contrat avec TF1, et il le dit ouvertement qu'il le regrette très fortement parce qu'il aurait adoré être dans l'équipe et qu'il aurait été un excellent client pour Top Gear France, faut être honnête. Hein.
Meilleur que Philippe Lelouch, c'est mon avis.
Disons qu'il aurait été beauf comme Lelouch, mais beauf d'une meilleure façon. Donc bon, oui, forcément. Et donc il a fait un peu quelques piges pour AB Moteur. C'est toujours quelqu'un qui a mis les moteurs, forcément, avec ses inénarrables compétitions de jet ski à Cavalaire, entre autres.
Donc, il va commencer les tournages de ce nouveau jeu dès le 19 avril, pour une probable diffusion dès l'été. Ça, on n'a pas encore de confirmation pour la date, mais j'imagine que si on tourne déjà maintenant, logiquement, on peut envisager cela.
Probablement pour l'été, dans la même case que faisait Guess My Age pour l'été. Il y aura sûrement des semi-rediffusions TPMP, même l'été en juillet, et en août, on aura Strike dans la case de TPMP.
Est-ce que c'est quand même un peu surprenant donc, de voir justement Vincent Lagaffe revenir comme ça pour un jeu, alors qu'il avait dit justement, suite après ses petits problèmes avec TF1, qu'il en avait un peu soupé de tous ces jeux. Ou alors est-ce que c'est justement le fait que ce soit un concept, entre guillemets, original, qui fait qu'il revient comme ça sur
Non, c'est une grosse girouette là, ça faisait quelques années après qu'il se soit fait virer avec l'échec de Boom sur TF1. Sur lequel il avait essayé de modifier le jeu avec des candidats à peu près surexcités avec 12 litres de café dans le sang. J'exagère à peine. Hein. Et des trucs qui explosent partout. Il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi les chaînes de télé ne lui faisaient plus confiance. Bon, après avoir un peu gueulé sur TF1, sur l'échec de Boom, après avoir un peu fait chier tout le monde... Malheureusement, c'est un peu normal que les chaînes de télévision n'aient pas forcément envie de penser à toi, surtout quand t'as quand même un gros sticker TF1 sur la tête.
Ah oui, clairement.
C'est un peu le problème. Vraiment, Lagaffe, j'aime pas mettre des étiquettes sur les gens, mais Lagaffe, très difficile de le désassocier de TF1 au final.
Oui, que ce soit sa première période, son retour. Voilà.
Ce qui fait pour Save It, qui est quand même la maison de retraite des personnes de la télévision.
On avait parlé Patrick Sabatier tantôt, maintenant
voilà,
Lagaffe.
Sabatier, Lagaffe, hein, tout le monde. C'est
Castaldi.
Castaldi, surprenant que le père n'ait pas encore trouvé un petit job là-bas.
Ah oui. Bientôt Tex.
Oui, et puis oui, putain, non. Stop, non, pas Tex. Non, mais c'est ça le pire. Ils sont capables de faire un Zamour like à midi avec Tex. Hein.
Ah bah oui, bah couple. On reprend couple pas couple. On met Tex dedans.
Vous prenez les clichés, vous rajoutez Tex. Après tout ça, vous allez le jeter dans le Pacifique et ça explose.
J'allais dire ça explose d'un coup. Hein. Il y a pas moyen.
Ah oui, non, c'est vraiment nucléaire à ce niveau-là.
Mais donc.
Non, mais ouais, la gaffe, bah. C'est quelqu'un qui veut bosser, il a toujours aimé montrer sa bouille à la télé, donc je pense que Hanouna est son ami, c'est lui qui produit, donc voilà, allez, on va faire un petit cacheton, ça fait plaisir.
Oui, parce qu'on va voir après combien de temps ça va durer, clairement, ce jeu.
Plus. Si c'est l'été, ça durera que l'été, hein, enfin, c'est pas, le concept n'est pas vendeur. Voir des gens jouer au bowling, c'est pas un concept qui est tellement français, donc...
Mais j'ai vraiment du mal à voir ce qu'ils vont nous trouver pour rendre cela alléchant. On va passer tout de suite à un sujet un peu plus sérieux, on va dire. C'est les audiences de la presse qui sont tombées récemment, la presse papier. Oui. Donc, bon, après, on sait bien que cela ne va pas fort pour eux. On annonce, entre guillemets, que... La presse papier risque quand même de vraiment subir la crise de plein fouet d'ici 2025, du moins pour ce qui est de la France, de la Belgique et de la Suisse. Donc voilà, on espère quand même que ça va aller mieux ces prochains mois. Mais là, la dernière enquête One 2017 qui s'occupe de diffuser les audiences de la presse papier en France n'est pas très rassurante. Rien que pour les magazines télé. Là aussi tout le monde est déjà en baisse, TV Magazine jusqu'à Téléstar. TV Magazine c'est le plus lu, mais c'est surtout parce qu'ils sont diffusés avec Le Figaro et Le Parisien, je pense que c'est surtout cela. Il y a tous les magazines féminins qui sont en baisse, à l'exception d'elle. Les News Magazine ne semblent même pas profiter non plus de la dernière année présidentielle, tout le monde qui se casse la figure, à l'exception de L'Express, Paris Match, L'Équipe Magazine et Voici.
Après, c'est surprenant, c'est que L'Équipe annonce que ses chiffres ont augmenté grâce aux championnats du monde d'athlétisme.
Donc, ce qui est assez bizarre, oui.
C'est assez bizarre, ouais. Oui. C'est pas exactement sur lequel l'événement que j'aurais pensé qui aurait pu faire monter le tirage de L'Équipe, mais bon, pourquoi pas.
Bah, les papiers sur Bolt, sa retraite, etc., j'imagine. Ouais, mais bon, c'est vrai que c'est assez étonnant. Par contre, je trouve que la technique de mesure d'audience de tous ces magazines et même de la presse quotidienne, c'est un peu difficile à analyser. Donc, pour faire simple, comme pour la radio, on interroge un échantillon de Français, ici il y en a 30 000, sur leurs habitudes de lecture, puis on tente de représenter cet échantillon sur l'ensemble de la population. Du coup, par exemple, pour TV Magazine, on se retrouve avec 11,3 millions de lecteurs, ce qui me semble quand même énorme. C'est possible vu la distribution.
C'est pas incohérent mais... parce que TV Magazine est mis en bundle le dimanche généralement avec Le Figaro et avec de nombreux autres quotidiens de la presse régionale. Donc au final, la distribution de TV Magazine est de fait importante.
Okay.
Donc ça me surprend pas tant que ça au final.
Ben voilà, j'étais étonné par ce chiffre, en tout cas 11,3 millions.
Voilà, c'est comme les audiences cumulées de visibilité d'une chaîne, hein. Il suffit qu'il y ait une personne qui a regardé une page, voire zappé 5 secondes, et hop, tu dis que c'est une personne qui a regardé ta chaîne ou qui a lu ton magazine.
Oh, oui, c'est
très large.
Au contrario, pour les news magazines, par exemple, on est à 2,3 millions de lecteurs pour l'Obs, qui est le premier news magazine, si on considère, même devant la presse People, etc. Ce qui m'avait étonné aussi. J'aurais imaginé la presse People plus haute, par exemple. Mais bon, j'imagine que c'est aussi le nombre de titres qu'il y a qui fait que...
Oui, il y a beaucoup de titres, il y a de la concentration qui va se faire aussi. Ça reste aussi un peu clivant, People.
Oui,
est-ce que
les gens vont dire je lis, voici mon closer toutes les semaines, j'adore ça. Je sais pas forcément si
non,
tout le monde le ferait. À titre de comparaison, par exemple, en Belgique, c'est aussi la même méthode pour les audiences de la presse papier. Mais là, on interroge un échantillon de 10 000 personnes par rapport à un pays de 11 millions de personnes. Donc du coup, je trouve que c'est un poil plus précis que ce qu'on a, par exemple, ici en France, avec 30 000 sur 70 millions.
Statistiquement, 30 000 personnes, c'est vraiment un très bon échantillon
pour
un sondage. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'aller plus loin, parce que déjà, je pense que ça doit être extrêmement coûteux d'interviewer ces 30 000 personnes, parce que c'est sûrement pas un sondage en plus de 4 ou 5 minutes pour te dire quand est-ce que tu le lis. Donc 30 000 personnes, ça me semble déjà être pas mal, et statistiquement parlant, on a déjà des sondages politiques qui sont très efficaces sur un panel de 3000 personnes. Donc sur 30 000 personnes, un sondage statistique sur des journaux, je pense qu'on va avoir des résultats qui sont à peu près fiables à ce niveau-là.
Okay.
Même si ça paraît un peu surprenant, en effet, pour certains magazines. Ils doivent pouvoir recouper ça, de toute façon, ça se recoupe assez facilement avec les ventes au numéro, les ventes de tirage, les abonnements.
Oui, clairement.
Donc je pense que si les chiffres étaient vraiment à ce point divergents, serait assez facilement visible à partir des organes de presse.
Parce que l'enquête est très précise, hein. Évidemment, je n'ai pas du tout cité tous les chiffres précis, mais vous avez par catégorie d'âge, par catégorie...
Socio-professionnel,
voilà. Selon les régions, les départements, etc. Donc, franchement, c'est quand même assez précis comme enquête pour justement savoir exactement quels sont les lecteurs de quel type de magazine, de quel type de presse quotidienne. Pour aussi un autre exemple, au niveau de la presse quotidienne, la presse régionale s'en sort très bien par rapport à la presse nationale, mais ça revient plus ou moins à la tendance de ces derniers mois. Donc voilà, c'était juste pour donner une petite indication de ces audiences qui ne sont pas très très réjouissantes pour la presse papier. On va passer tout de suite à la suite de l'émission avec les questions des auditeurs et les recommandations juste après une petite page de promo.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et 4 rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon,
tout est bon dans le Japon.
C'est l'heure du courrier des auditeurs. Vos questions, vos réactions, vous nous les envoyez par email à tvner@radiokawa.com ou sur le compte Twitter de l'émission @tvnershow et on y répond pour vous à chaque fin d'épisode. Et cette semaine, une nouvelle fois, une question d'Over and Over Again via Twitter. Merci à lui, qui se demande quelles initiatives ont été mises en place par les médias face à l'émergence des infos erronées, je cite les fake news. Alors, à ce niveau-là, je pense que vous l'avez déjà vu vous-même publiquement, les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de rédactions qui ont déjà mis en place des rédactions spécialisées pour tenter de contrer ces infos. Il y a les décodeurs au Monde qui ont même fait des petits plugins pour essayer de vérifier quels sites ou non sont fiables. Bon, ça, après, c'est toujours un débat de savoir comment un média peut juger si telle source ou non peut être fiable ou peut être considérée comme non objective ou non. C'est après, voilà, c'est aussi aux personnes de se faire leur propre opinion avec les informations qui sont données justement.
Et d'éduquer les personnes à faire ce travail-là, ce qui est déjà toute une.
C'est toute une aventure. Toute une aventure. Il y a aussi Check News à Libération, qui a donc Check News qui permet, vous leur poser des questions et ils tentent d'y répondre le plus factuellement possible. Et il y a aussi Désintox qui s'occupe plutôt de faire du fact-checking sur les déclarations de politique, notamment. Oui. Notamment en partenariat avec Arte. Il y a aussi des petites capsules qui sont diffusées sur Arte en prime. Donc voilà, c'est une grosse tendance à la presse papier, presse web, que de tenter de décoder les informations, de contrer ces fake news. Mais bon, il y a des études qui ont déjà prouvé par le passé que malheureusement ces papiers de vérifier sont beaucoup moins lus que les fausses nouvelles qui circulent. J'ai encore un exemple récent, c'est un article de Nord Press sur Vladimir Poutine qui se fout de la gueule des Français. Qui continue à être partagé des centaines de fois sur Twitter et sur Facebook, la plupart sérieusement, alors que la news avait déjà été vérifiée par Le Monde, Libération, Le HuffPost. Mais voilà, il n'y a rien à faire, les gens vont plutôt lire un titre, vont plutôt regarder une image, se dire que ça a l'air plus ou moins vrai, il y a le mot presse dans le nom du site, c'est
tout le problème de NordPress, qui sont véritablement de vrais trolls, hein, faut le dire. Et qui ouvertement joue sur le fait de vouloir effacer autant que possible la fiction et la réalité sur leurs articles en se rapprochant donc du nom de Sud Presse, qui est le vrai, lui par contre, organisme média en Belgique, et vraiment en mettant des titres putaclic et après en faisant le suivi en disant oui, c'est un vrai article avec du travail journalistique dedans et en y allant à fond sur le sujet, ce qui fait qu'après forcément les personnes croient qu'il y a réellement eu un travail journalistique et croire réellement les articles totalement foireux de NordPress de façon en avalant ça comme des couleurs.
C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de NordPress parce que pour moi c'est vraiment le site de fake news par excellence. Ah. C'est pas le Gorafi. C'est le Gorafi entre guillemets et satirique, humoristique.
Gorafi est satirique.
Voilà. NordPress est vraiment le cas d'école du site qui veut se foutre de la gueule des gens et qui veut tenter de mener les gens vers un mensonge. Clairement. J'ai déjà eu des mots avec le créateur du site et voilà, lui il s'en fout, son but c'est de faire de l'argent avec la publicité qu'il a sur son site, donc voilà, il va continuer tant que ça fonctionne, et malheureusement ça continue à fonctionner malgré tous les articles qu'il y a derrière pour contrer ces fausses informations. Comme je disais, malheureusement ça doit passer aussi par l'éducation, et je pense que ça aussi c'est super important qu'il y ait cela même déjà à l'école, simplement que dès le collège on puisse donner des formations pour permettre...
Des clés pour que... Voilà,
pour permettre de chercher...
Personne ne puisse comprendre ce que c'est qu'une news, une fausse news, ça va recouper même l'information, vérifier, ne pas tomber dans les pièges journalistiques à ce sujet.
Non, clairement. Donc voilà. De mon côté, pour prendre mon cas personnel, dans ma rédaction, je travaille dans une télévision locale bruxelloise, on a beaucoup de formations, je dirais peut-être une tous les 6 mois, plus ou moins, pour savoir comment bien utiliser des outils nécessaires à la recherche de fausses infos, de fausses photos, de fausses vidéos, parce qu'évidemment, ça évolue tout le temps, il y a plein de petits logiciels et sites qui existent pour justement débusquer une fausse image, une fausse vidéo. Je rajouterai à mon avis quelques liens dans la description de l'épisode. Mais voilà, j'ai pas l'impression que c'est forcément depuis l'émergence entre guillemets des fake news autour de Donald Trump, etc., que les médias font plus d'efforts. Je pense que c'est plutôt depuis l'émergence de Facebook et Twitter, donc il y a déjà 8-9 ans, que les rédactions se sont déjà rendues compte qu'il fallait être encore plus prudent, vérifier encore plus une information, parce que justement, les réseaux sociaux font que ça se propage beaucoup plus vite qu'auparavant. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, les réseaux sociaux sont un vecteur de la propagation des informations, parce que c'est... Surtout sur tout l'affichage des réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, qui ont fait qu'il fallait être rapide, fallait être concis, et donc parfois qu'un titre qui est beaucoup plus choquant, beaucoup plus putassier, fasse que les gens aillent croire l'information, la retweeter sans lire le contenu, sans forcément s'informer et que ça joue beaucoup plus à l'émotion, il a la raison de se dire est-ce que cette information est vraie. Donc ça a été totalement un catalyseur pour que les sites de fausses informations propagent et pullulent sur les réseaux sociaux. Ça, ça a été tout un travail, justement, avec les, avec la convocation de Mark Zuckerberg à la Commission européenne, et déjà, là, ces derniers jours, devant le Congrès, même si ce dernier a été plutôt clément avec lui, ça va être un gros point qui va devoir être mis en place pour qu'est-ce qu'il faut faire à présent sur ce genre de contenu sur les réseaux sociaux. Faut-il les interdire? Faut-il partir à la chasse? Faut-il faire en sorte que les algorithmes des réseaux sociaux soient beaucoup plus critiques envers ce genre de site? Ce sera des questions à se poser pour éviter que ce genre de contenu continue à devenir, à rester populaire sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas forcément, malheureusement, pour le moment, c'est compliqué. Il y a pas si longtemps, je voyais, quand tu, parfois en cliquant sur certains mots-clés Twitter, voit très vite en tête que bah, malheureusement ce sont des comptes Twitter complètement complotistes qui arrivent en tête et qui tout de suite propagent des informations qui forcément vont être continuées à être propagées parce qu'elles sont mises en tête. Et donc après, certaines personnes peuvent penser que c'est du contenu qui a été sélectionné, du contenu crédible vu qu'il est retweeté et qu'il est encore plus amplifié et ainsi de suite.
Je pense que ça confirme que finalement on peut pas tout gérer avec des algorithmes, etc.
Ah non, pas du tout.
YouTube s'en est encore rendu compte puisqu'il y avait des vidéos complotistes qui arrivaient justement dans... dans YouTube Kids,
oui, parce qu'il y a
YouTube
oui,
pour les enfants.
Sur YouTube pour les enfants, et même qu'ils avaient estimé, je ne sais plus, c'était pharaonique le nombre de personnes qui avaient été impactées, n'est-ce qu'en recommandation, une vidéo d'InfoWars. Ça se comptait en milliards, parce que là, comme les vidéos étaient populaires et retweetées, après, l'algorithme YouTube pensait lui-même que c'était des vidéos populaires, et donc les reproposait à d'autres personnes de façon générique, et ainsi de suite.
Non, c'est ça le gros souci. Il faut toujours une intervention, je pense, humaine derrière cela pour filtrer.
Comme les risques que ça propose après d'avoir un verre dans la pomme. Mais ce sera toujours beaucoup plus pertinent qu'un algorithme qui, lui, va se baser uniquement sur des faits abstraits pour pouvoir promouvoir certains messages ou certains articles.
Et là, à ce niveau-là aussi... c'est justement le problème de savoir après qu'est-ce qu'on filtre, comment on le filtre, etc. Il faut des règles assez claires et c'est justement tout le débat qu'il y a, notamment autour de cette loi anti-fake news en France, la loi anti-fake news qui a eu lieu, qui a été mise en place en Allemagne, où il peut parfois y avoir des soucis aussi, des erreurs humaines aussi à ce niveau-là, mais bon voilà. C'est un débat très 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 compliqué de savoir comment au mieux gérer ce combat contre les fake news, de savoir si on peut gérer ça seulement avec des ordinateurs, seulement avec l'être humain, un mélange des deux, mais comment le faire. Là, c'est très 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 compliqué. En tout cas, merci beaucoup pour cette question over and over again, et on répond toujours à vos questions dans 2 semaines pour le prochain épisode de TVNR, donc sur notre compte Twitter TVNR Show ou par mail tvnr@radiokawa.com. Et on va terminer ce numéro avec nos recommandations. Setsu, qu'est-ce que tu as à nous recommander cette semaine?
Alors, sans trop de surprise, c'est du Netflix encore, vu que sur le catalogue, je me suis aperçu que ces derniers avaient dans leur possession Penn & Teller Fool Us, ou aussi abrégé alors FU, je vous laisse vous-même réfléchir au jeu de mots rigolo totalement anglophone que ça peut faire. Et donc c'est un show à la base anglais qui a été repris sur une chaîne américaine, où Penn & Teller sont deux magiciens extrêmement brillants. Si vous n'avez jamais vu leurs performances, je vous invite à aller chercher sur YouTube, parce que ces derniers savent aussi bien faire des énormes performances scéniques et comiques sur leur jeu de close-up, qu'en essayant de faire comprendre à leurs spectateurs qu'il fallait parfois un peu réfléchir et douter de tout ce qu'ils voient, pour essayer de mieux comprendre un peu les divers mécanismes qui peuvent être mis en place pour tromper l'auditoire lors d'un tour de magie, tout en jouant de ça pour encore mieux les tromper. C'est vraiment joué à plusieurs niveaux, ils sont extrêmement impressionnants dans leur tour, je vous conseille à les voir. Et donc pour revenir sur le but de notre émission, l'émission consiste à donc ces deux magiciens brillants qui invitent d'autres magiciens émérites sur un grand plateau. Ces derniers jouent leur tour de magie, et bien évidemment le but de Penn & Teller est d'essayer de trouver le truc, sans le dire évidemment, mais de trouver le truc du tour de magie qui a été fait. Si ces derniers y arrivent, bah tant pis pour le candidat, et si ces derniers n'y arrivent pas, le candidat gagne un prix. Et cool, ça permet de voir donc de fameux tours de magie qui vont du rôle entier, du tour de cartes, l'escamotage, personne coupée en deux, etc., etc. Et c'est vraiment extrêmement brillant. C'est parce que les émissions de magie, maintenant, on n'en voit plus tellement à la télévision. C'était un genre qui était très populaire lors des années 90. En France, c'était surtout Gilles Arthur et ses grandes illusions qui avaient fait les grandes heures de France Télévisions à l'époque.
Moi, j'avais Sylvain Mirouf, mais bon.
Sylvain Mirouf également aussi. Et puis après, Dany Larry, un peu plus tard, dans le plus grand cabaret du monde. Mm-hmm. Ces trois continuent à tourner, mais le genre de la magie est un genre qui a pas mal disparu à la télévision, et ça, ça permet de revoir un peu ces grands tours de magie d'une autre façon, et c'est assez plaisant à voir. C'est un bon, c'est un divertissement, c'est clairement un divertissement du dimanche, vous pouvez rester dessus, comme ça, pépère. C'est très sympa, je vous le conseille.
Merci beaucoup Joachim. De mon côté, je vais vous proposer encore une émission anglophone, mais il y a des sous-titres anglais si cela peut vous aider. C'est Conan O'Brien qui est allé en voyage en Italie. Donc il est allé en voyage avec l'un de ses producteurs exécutifs, Jordan Chelansky, qui est donc c'est un gars qui est déjà le héros de multiples vidéos de Conan O'Brien, parce que c'est un gars un peu hautain comme ça, mais le visage sans expression. C'est vraiment c'est un type presque qu'on a envie de détester dès le premier regard. Et Conan O'Brien s'en amuse, et donc il va dans tous les endroits que son producteur admire en Italie, et ça donne vraiment un incroyable numéro de cette émission. Par exemple, ils vont à Florence déguster du vin, ils vont notamment aller chez un peintre italien qui peint des nus. Donc du coup, évidemment, ça donne des situations géniales.
Cocasse,
on peut dire ça. Ils vont notamment chasser la truffe dans les forêts. Enfin, c'est absolument génial. Tout est sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Conan O'Brien qui s'appelle Team Coco. Et si jamais, évidemment, tous les liens de nos recommandations sont aussi dans la description de l'épisode. Et c'est ici qu'on va refermer ce 97e numéro de TVNR. Je tiens à remercier encore Essetionnel pour son passage.
Merci à toi Greg pour l'apparition de ce numéro, et merci à toi Greg pour l'invitation.
C'est toujours un plaisir. TVNR est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. Continuez à soutenir TVNR et toutes les autres émissions Radio Kawa sur notre Patreon, patreon.com/Radio Kawa. Cela permet notamment l'organisation d'émissions publiques, l'achat de matériel de qualité pour rendre nos émissions encore meilleures. Un commentaire sur la page iTunes de TVNR nous aide également à faire découvrir l'émission à plus d'auditrices et d'auditeurs. Et évidemment, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de TVNR. Ciao!
Salut!
Radio Kawa.